Putain, je suis crevé.
T'as commencé à dormir.
Non, t'es pas crevé, t'es bourré.
Oui, non, ouais. Clairement, mais bon, c'est un autre débat.
Une bande de trolls, diaboliques, sans aucun respect ni aucune considération.
Bonjour et bienvenue dans Serial Causer, saison 10. Généralement, je commence toujours par un petit parallèle avec une série qui en est au même point que nous, mais saison 10, c'est beaucoup et c'est devenu rare. Alors après 10 saisons, on nous oublie, on devient une habitude, mais ce n'est pas forcément négatif. On devient un beau compagnon de route avec ses qualités et ses défauts. On peut dire aussi « Ah, c'était mieux avant ». En bref, on reste un plaisir pour certains, donc merci à vous de nous écouter cette saison. Et en parlant de plaisir, j'ai toujours autour de moi les causeurs les plus efficaces du monde du podcast, le numéro 1 Maxime.
Ah, merci.
Le top du top Fred.
Ah, salut, merci.
La crème de la crème à qui ?
Hello.
Et le goat Stéphane.
Non, oh, c'est gentil, j'avais peur, hein, mais c'est gentil.
On aurait pu dire la goat.
Oui, ok.
Bon, comme à notre habitude, revenons sur ce qu'il ne fallait pas rater cet été. On commence par le gros morceau One Piece. Qui est arrivé juste avant la rentrée. On va en parler tout de suite. Stéphane, l'événement Netflix, One Piece, oui. L'adaptation de l'animé du manga.
Oh, ça fait beaucoup de trop. Oui, ok.
Qu'est-ce que ça vaut, toi qui n'as jamais lu ou vu One Piece ?
Ben, je suis agréablement surpris par la qualité de la série que nous a offert Netflix. C'était vraiment cool. J'ai beaucoup aimé. Alors, c'est un peu cheapos, c'est un peu... Voilà, mais...
Ça coûte très cher.
Ça coûte très cher, mais ça se voit pas visuellement, disons.
Bah, quand même, hein.
Oh non, attends, je suis désolé, la photographie est un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Les épisodes sont un chouïa trop longs, pour ce que c'est, surtout les quatre
très
premiers.
Très mauvaise première intervention d'Aki,
non.
Quand même.
Ah oui, je vais
renvoyer dans les cordes par Stéphane.
Non, mais j'attends qu'il finisse, je sais qu'il est un peu plus agressif que d'habitude.
Au contraire. Hormis la photographie qui est un peu dégueu, qui fait un peu cheap, et les épisodes qui sont un peu trop longs au début, ben en fait j'ai beaucoup aimé. Je me suis laissé emporter clairement par l'énergie de Iñaki Dogoï là, je sais pas comment
Godoy,
ça se prononce.
Oui.
Et en fait c'était vraiment sympa. L'univers est vraiment trop bien et je suis agréablement surpris. J'ai toujours eu envie de me jeter sur l'animé, mais quand j'ai vu qu'il y avait 1000 épisodes, voilà, merci quoi. Donc non merci. Et ben là les 8 épisodes qui résument à peu près, si j'ai bien compris, le créateur les 100 premiers épisodes de l'animé.
Et non, pas les 100 premiers.
Ah ben, moi, j'ai compris que c'était plus ou moins 100, mais donc c'était très bien.
C'est voilà. Le premier arc, ouais. Plus ou moins. Mais en fait, moi aussi, j'ai beaucoup aimé. Je suis agréablement surprise. Mais j'étais plutôt emballée dès le départ. J'ai trouvé ça osé qu'il fasse un live action d'un animé, sachant que avec tous les effets de One Piece, beaucoup de gens avaient peur que ça rende ridicule. Et même l'effet gum-gum, donc de ouais. Luffy, je le trouve plutôt bien réussi, hein, faut le dire.
Bon, enfin, c'est pas le premier animé qu'on adapte hein, aussi. Hein. Cowboy Bebop s'est clairement planté aussi à un moment donné. Hein.
Tu veux dire Cowboy Bebop ?
Oui, mais c'est pas ce que je viens de dire.
J'ai pas entendu ça, c'est pas grave. J'ai entendu une chose. Oui, sauf que Cowboy Bebop, il y a genre zéro effet en fait. C'est genre un peu futuriste, rétro et c'est tout.
C'est une très mauvaise adaptation d'un animé. Alors que là, pour le coup, c'est une très bonne adaptation d'un animé.
C'est vrai que c'est drôle. Il y a l'aventure, il y a l'esprit shonen, ce qu'on appelle, des underdogs qui arrivent à trouver quand même la flamme pour aller de l'avant. Et c'est plutôt pas mal. En revanche, moi, mon seul souci. Dans ce que tu appelles cheap, je suppose, c'est les combats d'épée. Donc, que ce soit Zoro, que ce soit le corsaire ou quoi, je trouve ça très très laid. Voilà, c'est mon seul bémol.
C'est jamais vraiment réussi, hein. Les combats d'épée. Moi, je n'arrive pas à trouver un combat d'épée que j'ai trouvé vraiment réussi.
Dans la série ou dans.
Non, en général,
dans l'absolu.
Oui, en général, je trouve que ça fait très cheap, mais partout de ce type de combat.
Non, là, en tout cas, vous êtes en train de dire que ça conjure d'une certaine manière la malédiction qu'on a sur les adaptations de manga en live action, quoi.
Plutôt.
T'avais des craintes avant que ça arrive, comme.
Bah oui, parce qu'en fait, le truc, l'animé, comme Stéphane disait, il y a 1000 épisodes et c'est un peu le syndrome Captain Tsubasa, enfin Olive et Tom, quoi. Genre, il y avait des combats qui durent littéralement un épisode, si tu veux, et c'est chiant. Je suis désolée, ça, c'est mon seul problème avec les animés, quand les arcs, ils ont pas à être aussi longs, en fait. Et là, ils ont fait ce qui a raccourci scénaristique vachement mal, hein, mine de rien. Notamment, moi, c'est parce que je trouvais, donc, toute l'histoire avec Kobe et Garp, enfin, toute la marine, en fait, ils ont réussi à l'introduire, accompagner l'histoire d'une manière assez maline.
Et je tiens à dire qu'il y a un twist de la fin de l'épisode 4. Je vais pas révéler ce que c'est parce que pour les
gens. Alors oui, c'est très rapide. Dans l'animé, oui. Tu le sais au bout de genre 200, 300 épisodes.
Et je dois avouer que c'est l'un des twists qui m'a le plus surpris depuis. Un paquet de temps, voilà.
Ah bah, t'es pas au bout de tes surprises. J'ai hâte de voir évidemment les autres personnages emblématiques de l'univers de One Piece. J'ai très très hâte, parce que quand même, enfin, c'est pas un spoil, hein, mais genre Chopper, je suis quand même hyper curieuse de savoir comment ils vont le faire quand même, voilà.
Après l'épisode 8, mais enfin, la scène dit rien et montre rien et j'ai... Voilà.
Non, c'est pas ça. C'est pas
ah, c'est pas celui-là. Ok, non, d'accord. Okay,
c'est pas grave.
Alors, c'est qui ce mec-là?
Ben, justement, c'est pas un mec, c'est ça le problème.
Ah, merde, ok, d'accord.
Voilà. Okay. Mais bah, en gros, c'est un renne, en fait.
Oh, j'ai rien compris. Je sais même pas ce que ça veut dire.
Un animal. Le renne de Père Noël, si tu veux. C'est genre un renne.
Ok, d'accord. Mais en fait, non, mais voilà. Tommy se moque de moi, mais en fait, il y a des animaux tous les deux épisodes. En fait, l'univers était complètement frappé et c'est ça que j'ai beaucoup aimé aussi.
Et le casting a l'air cool.
Oui, il est cool. Ouais. Meilleure surprise, c'est Sanji. Alors là, franchement, genre, oui. Le mec, mais genre, c'est copié. Genre, je suis hallucinée, quoi. Il a dépassé mes attentes, hein, tellement le casting était bon.
Et ben, c'est mon préféré. C'est mon préféré. Ah ouais, ben voilà.
Enfin, je sais plus qui sur Twitter parlait, faisait une petite remarque sur les perruques, enfin les colorations des persos. Il y en a, j'avoue, mais ça, tu t'attends pas à mieux, en fait. Je veux dire, quand t'as les cheveux violets, quand t'as les cheveux roses, bah forcément, non. C'est toujours un peu délabré.
Mais celle de Shank est vraiment dégueulasse, en fait. Voilà, je crois que c'est la seule qui m'a vraiment le plus marqué, c'est celle de Shank.
T'es pas choqué par la photo du coup, à qui non, ça va,
bah, moi j'ai plutôt été agréablement surprise parce que je m'attendais à un truc japonais un peu genre beaucoup plus cheap que ça en fait. Ouais. Donc ça pour le coup, je suis plutôt.
Wow. La photo est dégueulasse, mais les effets spéciaux sont vraiment plutôt pas mal réussis.
Bah, voilà. Le Buggy par exemple, typiquement, les effets pour lui, je le trouve top. En plus, c'est le petit de Agents of S.H.I.E.L.D.
Alors, ah non, Jeff Ward, ah non, je trouve qu'il en fait des caisses. Il m'a saoulé en fait, j'espérais.
C'est un clown, les clowns en font toujours des caisses.
Oui,
il d'accord. Ah, il y a des clowns, voilà. Au secours.
Mais en plus, c'est des clowns sans corps. Oh mon dieu, quelle horreur. Voilà.
Bon, en tout cas, vous, tous les deux, vous avez aimé et vous recommandez.
Ah ben, je pense que beaucoup de gens tomberont sous le charme de Luffy. Enfin, ils vont comprendre pourquoi Luffy est aussi fédérateur.
Le fan va aimer et le profane va...
Ah oui, va clairement. Adhérer. Ah non, mais je suis surpris à quel point ça va fédérer vraiment tout le monde.
Et 8 épisodes, c'est pas trop peu ?
Bah si, c'est franchement, quand t'es habitué à un arc qui fait 50 épisodes, et là tout d'un coup t'as genre 8 épisodes pour faire genre, enfin bref, c'est très peu.
Non mais c'est bon signe pour Netflix qui manquait de locomotive là quand même.
Oui, c'est clair.
Clairement. Bah, s'ils la renouvellent.
Pour bah, ils vont la renouveler. Je suis étonnée qu'ils aient pas fait deux parties, en fait.
Ouais,
voilà, je
clairement. En revanche, je trouve que sur les 7 premiers épisodes, je me suis dit, putain, mais en fait, c'est beaucoup trop court. Et je trouve que le 8e arrive à conclure les 7 premiers d'une manière assez intelligente.
Oui.
Donc, en fait, c'est regardable sur 8 épisodes, quoi. Clairement. À un moment donné, je me suis dit, mais en fait, c'est dommage, ça mériterait 20 épisodes ou 22 ou voire même plus. Et le 8e fait en sorte que, ben, en fait, tout retombe sur ses pattes et 8 épisodes.
Non, mais ils ont été très malins. Franchement, je le dis, niveau scénario, rien à dire.
Et ce que j'ai beaucoup aimé, parce que donc, je me suis renseigné quand même pas mal sur le coup pour la série, c'est qu'ils ont quand même eu l'aval sur énormément de choses, sur toutes les modifications qu'ils ont faites du créateur original du manga. Et pour le coup, c'est assez rassurant pour à peu près tout le monde.
Alors ça, j'ai vu que beaucoup de gens étaient un petit peu sceptiques sur ça, en mode, est-ce que c'est vrai ou si c'est que du marketing?
A priori, oui. Hein.
Bah, je pense aussi, je vois pas quel serait son intérêt de dire qu'il cautionne le projet si c'est pas vrai, à part l'argent, bien entendu. Mais bref, j'ai vu beaucoup de fans qui étaient, non mais c'est pas possible qu'il ait donné son accord pour ça, alors que pourtant, je trouve que...
Bah, tu vois, sur Saint Seiya, le film, le créateur était apparemment derrière le truc et c'est très mauvais. Donc, bon.
C'est pas faux.
Voilà. En tout cas, c'est sur Netflix pour 8 épisodes. On continue par la série qui a possiblement confirmer tout le bien qu'on pensait d'elle, c'est The Bear, sur place ou à emporter en VF. Et oui, disponible sur Disney+, on retrouve Jeremy Allen White en chef Carmi, qui a décidé de transformer son boui-boui en resto classe avec l'aide de son équipe. Maxime, est-ce que cette saison 2 confirme tout ce qu'on disait sur la saison 1 ?
Alors non, moi j'avais été plutôt réservé en fait sur la saison 1. Donc du coup ça confirme pas ça, moi ça m'a fait totalement changer d'avis. Parce que la saison 2, je trouve, se tient vachement plus en termes de scénario, ça, c'est beaucoup moins erratique, c'est beaucoup moins le bordel. Je comprenais un peu ce qu'ils voulaient faire en saison 1, mais bon, c'était pas trop mon délire. Et là en fait, on suit l'ouverture d'un restaurant des deux personnages principaux et on apprend un peu plus à les connaître, je trouve. Tout au long de la saison, et j'étais un peu plus investi dans les personnages, dans ce qu'ils voulaient, et en fait ce qui fait que la série est vraiment excellente dans la saison 2, c'est déjà les acteurs, Jeremy Allen White et
Ayo Edebiri,
voilà, sont vraiment top, tous les deux dans des registres assez différents, mais pourtant on n'en a jamais marre d'eux, alors que c'est pas forcément des personnes toujours très
facile,
ouais. Et donc voilà, pour moi c'était la première réussite. Et la deuxième, c'est les autres vont en parler, mais l'épisode 6 où vraiment c'est une claque, c'est un épisode comme on en parlera, je pense, pendant des années et des années, parce que bon, il est déjà très bien écrit. C'est une scène, c'est un soir de Noël. Oui, c'est Noël ou Thanksgiving, je sais plus.
Noël,
hein, ouais. Et on découvre la famille en fait. De Jeremy Allen White.
Mais à l'époque, avec son frère encore vivant, oui. Pré-saison. Ouais.
Oui, voilà, c'est un flashback. Et en fait, cette famille, c'est guest sur guest. Vraiment, c'est à chaque scène où apparaît un nouveau personnage, c'est un acteur qu'on a déjà vu dans X séries.
Qu'on aime surtout. En fait, c'est aime, que des excellents acteurs. C'est ça. Quoi.
Non, il y a Sarah Paulson.
Hey, on se calme, ok.
Personne n'aime Sarah Paulson.
Non, mais en vrai, elle est très bien. Elle est très bien.
En fait, c'est celle qu'on voit le moins, donc oui.
Ça m'a saoulé d'ailleurs, je vous le dis.
Oui, moi aussi, voilà.
La seule non-guest, on la voit presque pas, c'est une bonne femme là, qui traîne avec je ne sais pas qui. Elle est autour de la table, mais elle dit rien pendant tout l'épisode, je ne sais pas si vous avez remarqué.
La femme de quelqu'un
même plus. La femme d'Oliver Platt, je crois. Sa copine ou je ne sais quoi. Bref.
Oui, vas-y, bref. Maxime. Non, mais juste voilà pour dire que vraiment cette saison 2, je l'ai même recommandé à des potes alors que la première saison, j'étais pas trop chaud. C'était vraiment très très bien et jusqu'à la fin, voilà, Fred l'a pas vu donc on va pas spoiler la fin, mais le dernier épisode donne envie de revenir.
Clairement.
Moi j'ai juste envie de dire, j'ai trouvé cette saison bien meilleure. Personnellement, j'ai pas trop aimé l'épisode familial parce que c'était très très anxiogène.
Ouais.
En revanche, ce qui est cool, c'est que les personnages cette saison ont une évolution positive. Ah, oui. Et c'était quelque chose qui manquait vachement dans la première saison, parce qu'au final, c'était un peu, ils s'enfonçaient dans leurs problèmes dans leur première saison. Ah. Et là, ils s'en sortent. Et j'ai trouvé ça très émouvant, en fait. Et j'ai bien aimé aussi le fait que chacun soit au cœur d'un épisode. Donc voilà, très bel équilibre.
Presque au cœur, mais
oui. C'est vrai que c'est moins auto-centré.
J'ai découvert la série la semaine dernière, donc j'ai fait la 1 et la 2. Et j'ai trouvé que la 1 était mieux, parce que je trouve que l'ambiance de boui-boui, de petits trucs, allait mieux, plutôt que l'ambiance... ils veulent faire un resto classe. Ouais, parce que je trouve que, ça colle mieux, justement, à tous ces personnages un peu bancal, un peu ni bon ni mauvais. Enfin, je trouve que c'était mieux, il y avait un meilleur esprit en fait, d'équipe. Même si c'est un peu
c'est-à-dire que tu n'adhères pas du tout à l'évolution de ce que veut faire la saison 2.
Alors non, je trouve que ça va trop vite, alors que d'un côté, je trouve que ça va... les ellipses, en fait, il y a trop d'ellipses. Je trouve qu'il n'y a pas assez d'épisodes, vraiment. Je trouve que pour ce genre de série, ça, ouais. 8 épisodes... Enfin là, j'ai pu regarder les 18 épisodes, donc j'étais plutôt content. Mais au bout de la première saison, tu dis... Il s'est passé quoi en fait? Il s'est pas passé grand chose à part les personnages. Je trouve que l'installation des personnages est très 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 bonne. Je trouve que j'ai rarement vu une série qui exposait ces personnages aussi vite et aussi bien. Les acteurs étaient très bien. C'était un bordel sans nom parce que ça parle très 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 vite et c'est un peu bordelique. On peut en avoir vite marre, mais C'était cool. Et surtout qu'il y avait des personnages, en fait, moi, je trouve gentils et pensais qu'il allait leur arriver des choses un peu, on va dire, sopesques. Hein, tu vois, le truc un peu con, le bâton dans les roues, quoi. Par exemple, Marcus, le pâtissier. Je pensais qu'il allait lui arriver quelque chose en saison 1. Et en fait, non. Je dis, bon, bah, ok, le mec, en fait, est parfait. Il est gentil comme tout. Et,
enfin, ils n'ont pas le temps de leur mettre des bâtons dans les roues. C'est vrai que la série, elle va à 100 à l'heure, quoi.
Ouais, ouais, ouais.
Moi, du coup, ouais, j'en suis à la moitié de la saison 2, là. Et non, j'accroche plus que sur la saison 1, qui était déjà très bien et voilà, remplie de super qualité et de promesses. Et là, moi, la saison 2, j'ai vachement accroché parce que bah, moi, je me reconnais un peu dedans. Il y a le côté décompte avant ouverture que je trouve super bien utilisé parce que voilà, ça met vraiment la pression. Et en plus, moi, comme je suis perso dans une phase un peu comme ça aussi sur des projets et tout, je m'identifie bien à ça et c'est super bien retranscrit, quoi. Et donc non, je trouve que c'est bourré de qualité et là ouais, je suis en train de regarder tout ça et j'ai hâte de voir la suite.
Mais c'est l'idée de ce compte à rebours est très bien, mais en fait j'ai l'impression qu'il se concentre que sur les merdes et du coup je vois pas vraiment le resto se construire, en fait.
Il n'y a pas que les merdes.
Je trouve des ellipses. Il y a des choses très positives. C'est-à-dire par rapport aux personnages, je trouve qu'on retrouve ce qu'on disait sur Ted Lasso. Je pense que je le retrouve mieux dans The Bear. C'est-à-dire que les personnages, quand il arrive des trucs bien, je suis vraiment content pour eux.
Oui.
Et tu veux dire genre l'épisode 4 et l'épisode 7, quoi.
Il y a un truc, il y a un truc humain, en fait, dans la série qui est vraiment très bien. Et après, qui se concentre sur un personnage. J'avais vu sur Twitter que ça pouvait décontenancer certains qui disaient que ça tuait un peu le rythme et l'ambiance. Ah, mais
c'est au contraire, c'est ça qui est beau. C'est, en fait, ils ont le showrunner a fait l'exact opposé de ce qu'il a fait en saison 1. C'était audacieux.
Ah, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai du mal à le rythme. Que ça allait mieux que la saison 1.
Et c'est peut-être pour ça que le fait de les regarder coup sur coup n'est peut-être pas avantageux pour le coup.
Tout
pour
à fait. Zéber, quoi. Ouais. Exactement.
Et c'est fou parce que vous parlez des guests de l'épisode 6, mais moi, c'est plus l'épisode
4 ou 7 qui m'ont plus marqué.
Mais bon, après, et pareil, surtout, enfin, partout dans le monde entier, les guests de l'épisode 6 avec, bon, enfin, je ne vais pas les citer pour ne pas garder un peu de surprise, mais moi, c'est vraiment le 4 et le 7 quoi, qui m'ont le plus marqué. C'est fou.
Attends, le 7, on est d'accord, c'est le resto.
C'est au Danemark. Avec,
ah oui, celui-là, il est top.
Voilà. Et le 7, c'est avec notre chéri adoré de toutes les séries anglaises possibles.
Oui.
Ah, je pensais que tu parlais de Taylor Swift.
Et par contre, c'est la meilleure utilisation de l'épisode d'une chanson de Taylor Swift. Donc voilà.
Je voulais parler aussi de la réale qui est. Je me dis c'est beaucoup trop gros plan, sur trop proche des visages, mais parfois c'est fulgurant, c'est-à-dire des plans séquences de malades.
Ouais.
Genre le dernier épisode, c'est fou.
Mais on est plongé dans la cuisine, quoi. On est plongé dans cette ambiance-là, dans cette frénésie, et ça rend vraiment super bien, quoi.
Des très bons personnages, et par contre, j'avais dit que. Du coup, la saison 1 empêchait les choses sopesques d'arriver. Et en fait, dans le dernier épisode, il y a un truc qui doit arriver et qui arrive et que je trouve rend la série un peu plus, on va dire, moins audacieuse. Mais ça permet en fait de la rendre beaucoup plus attachante, en fait. Il y a plein de trucs que tu penses voir venir et qui n'arrivent jamais.
Oui, alors que là, non.
Et non, mais sinon, voilà, tous les acteurs sont très bien. Moi qui regarde Shameless en même temps, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, mais voilà. Mais je trouve mais que ça
c'est le même rôle, ça peut être, enfin, ça peut être le même personnage, hein. C'est ce que j'allais dire, franchement je trouve qu'il joue pas dans un registre très différent, il joue très bien, mais c'est pas très différent d'être un peu exceptionnel dans ce qu'il fait. C'est le même pour moi.
Ça se passe à Chicago, non, en plus?
Oui, tout à fait.
C'est clairement, t'as l'impression de voir un spin-off de Shameless avec son personnage, ça pourrait être ça.
Est-ce qu'il n'est pas un peu détestable, son personnage? Pas détestable, mais pas le plus apprécié.
Mais justement, la saison 2, je trouve qu'elle le rend tellement attachant. C'est pour moi la vraie force. Ouais. Le fait de pouvoir trouver l'amour, ou en tout cas quelqu'un avec qui il peut connecter et construire quelque chose, l'a rendu super attachant. Et je trouve qu'il fonctionne vachement mieux.
Il n'a jamais été détestable, je sais pas. Pour moi, il a subi genre des traumas et... mais pas détestable, quoi.
Mais disons que la saison 1 est quand même très difficile pour aimer un seul des personnages, quoi.
Ils sont tous un peu antipathiques à leur manière. Moi, c'est ce qui m'avait rebuté dans la saison 1, justement, c'est que j'arrivais pas à m'attacher à eux parce qu'ils étaient tous antipathiques.
Moi, je suis extrêmement, pas surpris, mais de la de la façon dont la saison 1 est même pas le miroir de la saison 2, mais en même temps, c'est de la continuité la plus logique. Enfin, c'est audacieux d'avoir changé et de casser tous les rythmes qu'il avait en saison 1, de changer en saison 2 et de faire en sorte que ces personnages deviennent... Enfin, on les aime tous, quoi.
Et même dans la forme, je trouve qu'ils s'amusent, niveau générique, enfin pas générique, mais niveau titre. Par exemple, l'épisode du dîner, voilà, il s'appelle pas The Bear, quoi.
Non, mais c'est de bout en bout. Enfin, c'est impressionnant. Je crois que c'est un mec qui a compris ce que c'était la télévision d'avant et qui l'a refait aujourd'hui, qui la cuisine.
Exactement, c'est ce que je pensais. Ouais.
Voilà. Il a été nourri comme nous à la télévision des années 90 et il l'a refait aujourd'hui, concocté, ben, avec infusé avec tout ce qui est de toutes les modernités qui apporte avec les séries et voilà.
Les épisodes existent, quoi. Les épisodes se suffisent, mais constituent un tout aussi, quoi.
Ah oui. C'est rare qu'on soit aussi d'accord à l'unanimité, quand même. Hein. Voilà, ça, ça vaut le coup d'être mentionné.
La saison 3 sera pourrie, mais bon, c'est pas
grave. Mais tu sais que c'est ma plus grosse angoisse, quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il peut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il ne peut... Il va être obligé de faire des redites.
Non, mais je pense qu'on sera surpris, en fait. On ne l'a pas encore... enfin, on ne peut pas le deviner. Non, on sera surpris.
Ouais. Mais en même temps, j'avais peur déjà des redites en saison 2. Alors, pour le coup, j'ai été largement sûr.
Ouais, et puis c'est des saisons qui sont courtes avec des épisodes courts, donc je ne pense pas qu'ils soient lassés tout de suite.
Ah, des épisodes courts, tu veux dire? T'as pas vu l'épisode 6, toi, ça?
Bon, très bien, en plus il y a du Taylor Swift, donc jetez-vous dessus. c'est sur Disney+.
Oui,
tout à fait.
Ça commence un petit peu à prendre, mais c'est encore un peu confidentiel. Hein,
faut le dire. C'est bizarre que ça ne prenne pas autant en France, en fait. Mm. Pays de la gastronomie, je ne vois pas pourquoi on ne se jette pas dessus.
C'est vrai qu'on avait fait une spéciale série cuisine, mais là, elle aurait eu toute sa place.
Ah oui, c'était bien avant. Et d'ailleurs, dans cette spéciale cuisine, on a parlé des repas de famille. Oui. Et ben, je crois que cet épisode 6, en fait, il aurait largement eu sa place dans cet épisode-là. Quoi.
On passe sur... on reste sur Disney+, mais avec une série Star Wars. Ahsoka, la nouvelle série Star Wars, a-t-elle satisfait nos attentes, Fred?
Ben, du coup, pour l'instant, il n'y a pas eu beaucoup d'épisodes, donc on attend de voir. Parce que je trouve que ça peine à décoller. En gros, Ahsoka, bon, je pense que les auditeurs, s'ils ont écouté le spécial Star Wars ou d'autres commentaires qu'on avait sur les séries Star Wars, auront compris que Ahsoka Tano était un petit peu le personnage qu'on avait préféré sur tout l'univers étendu. Parce que le plus intéressant, etc. On l'a retrouvé avec une apparition dans Mandalorian, mais là la série c'est clairement une suite de Star Wars Rebels, qui était la série d'animation. C'est les nouvelles aventures d'Ahsoka qui retrouve en plus certains personnages de cette série d'animation, nouvelles aventures, nouvelle République qui fait finalement les mêmes erreurs que dans le passé. Pour l'instant, je suis pas méga emporté. Je trouve ça très propre. De toute façon, Rosario Dawson, elle campait déjà le rôle et c'est toujours impeccable. La série, les effets spéciaux, il y a rien à dire. C'est pour l'instant, en tout cas, c'est nickel. Mais voilà, j'attends vraiment que ça décolle parce que je trouve qu'on traîne dans des trucs qu'on connaît un petit peu déjà. Sur les magouilles de la République qui peinent à s'installer, sur encore un apprentissage de Jedi, etc. Avec des personnages qu'on connaît finalement déjà, alors que j'aurais bien voulu en savoir plus sur Ahsoka, alors que c'est plus Ahsoka et compagnie, quoi.
Donc ça pue un peu le film, pour l'instant, le film découpé, quoi.
Non,
pas forcément. Je sais pas ce qui nous attend pour la suite. J'attendais plus de trucs perso sur Ahsoka et ce qu'elle a vécu pendant qu'elle était seule, plutôt que de la retrouver en compagnie encore d'un groupe dans lequel finalement on s'intéresse peu à elle, quoi.
Comme disait Fred, c'est la saison 5 non avouée de Star Wars Rebels, parce que ça reprend clairement l'intrigue avec Ezra qui a disparu, Thrawn qui a disparu, et voilà quoi. Il y a Sabine, il y a Hera, enfin il y a même Jacen Syndulla, enfin il y a tout le monde, quoi. Malheureusement, si t'as pas vu Star Wars Rebels, tu te fais un peu chier, quoi.
Je suis pas d'accord parce que moi j'ai pas du tout vu les animations et j'aime bien Ahsoka.
Ah, ben non, ben alors,
j'ai bien aimé Ahsoka, c'est un super personnage.
Mais je suis extrêmement surpris et agréablement content de t'entendre dire que pour un néophyte qui n'a pas vu Star Wars Rebels, ça passe crème.
Ouais, je pensais après, que ça ne passerait pas aussi crème, ouais.
Moi non plus. Donc,
après, je comprends parce que genre, quand ils parlent d'Ezra et tout, je suis beau, ok, ils avaient l'air vachement de tenir à lui. Ouais. Mais bon, tu vois, j'ai pas du tout de sentiment là-dessus, mais je trouve que les personnages en eux-mêmes, enfin en elles-mêmes surtout, genre les personnages féminins là, ouais, sont vraiment cool.
Ouais, ouais.
Donc ça me va. Ça, simplement.
Donc, comme dit Fred, hein, c'est que le début, on a vu que 3 épisodes, il en reste 5 a priori. On devrait avoir quand même avoir du gros, vu ce que nous a promis l'abandonnance, on devrait avoir du gros quand même qui va arriver. Mais moi, c'est comme rentrer à la maison quoi, avec Ahsoka. Je retrouve Sabine, je retrouve Hera, je retrouve Jacen, je retrouve Ahsoka. Enfin, je retrouve tous les personnages que je connaissais. Et je crois que ça m'a fait plus d'effet de voir les premiers épisodes de Ahsoka que de retrouver l'épisode 7 de Star Wars. Donc, c'est pour te dire à quel point il y a quelque chose de particulier dans cette série. Et j'espère que je ne serai pas déçu par la suite, quoi. Clairement.
Bah, c'est surtout ça. Moi, j'espère que ça va décoller et que ça va pas être juste une histoire de on recherche encore un plan pour une carte pour retrouver le grand méchant, quoi.
C'est quoi l'idée? Enfin, genre, c'est censé être une série là ou une mini-série?
Eh ben, c'est une bonne question.
Mais d'après ce que je vois, ça fait pas partie du tout. Ils veulent conclure par un film ou des trucs comme ça. Je sais plus. Après, leur plan, il change tout le temps, de toute façon.
C'est ça. Oui. Ben, en tout cas, ça sera la grande œuvre de Dave Filoni, donc le showrunner de Ahsoka, qui est à la manœuvre après George Lucas sur tout Star Wars. Là, c'est la concrétisation de tout ce qu'il a fait sur toutes les séries précédentes.
Ouais, donc, c'est ce que les gens disent, visiblement. Voilà.
Ah non, mais c'est pas visiblement, c'est... Pour l'instant, ça
l'est. Il y a un autre truc, j'étais choquée, genre les gens ont dit qu'ils trouvaient ça moche, les combats de sabre laser, etc.
Disons que ça manque un peu d'ambition. Voilà. Mais après, ça reste complètement réaliste et c'est quand même mieux que les batailles d'épée de One Piece, tu vois. Donc,
oui, c'est clair. Mais
techniquement, c'est super propre.
T'as raison pour le coup. Mais voilà.
Et pour une fois, je trouve. Alors, parce que je suis pas une fan de Star Wars de base, je trouve que tout fait fake en fait, tous les prosthétiques et tout. Enfin, j'aime pas.
Non.
Mais là, je trouve que c'est correct. Alors que Ahsoka, c'est genre littéralement une extraterrestre, quoi. Et donc, c'est pas. On the nose, enfin j'ai envie de dire, je trouve pas que ça bizarre, je la trouve pas horriblement faite en plus, donc je trouve ça. Correct.
Alors, avec Ahsoka, je suis d'accord avec toi, avec Hera Syndulla, donc qui est jouée par Marie-Elisabeth Winstead, j'ai un peu plus de mal parce que le verre est un peu dégueulasse quand même sur sa gueule. Voilà.
Mais ça, c'est la malédiction du verre, hein, de toute façon.
Ouais.
Très bien. Donc, c'est sur Disney+. Toutes les autres séries vont être décalées, c'est ça? Les séries Marvel et...
Oh ouais, c'est déjà annoncé. Il y a juste Loki qui va rester pour la saison 2.
Non, qui est retardé aussi.
Oui, un petit peu.
Mais pas beaucoup, ouais. Alors que toutes les autres, c'est 2024.
Ouais, mais non, mais c'est la faute de la grève des scénaristes. En fait, ils n'ont plus rien et ça va durer.
C'est la faute des producteurs.
Non, mais si ça peut permettre à Marvel de se reposer un peu et d'essayer de proposer un peu de qualité après, ça serait bien.
Mais moi, j'ai juste envie qu'ils se cassent la gueule et qu'ils rémunèrent leur putain de scénariste.
Ah oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mais on entend un peu les deux, là. On entend qu'ils vont devoir céder, mais en même temps, les gens disent que c'est une stratégie. Je sais plus, je ne comprends plus rien.
Mais ils se plantent sur pas mal de choses en ce moment chez Disney, donc ça va finir par réfléchir si ça continue.
Regarde la preuve à qui tu es en train de pleurer, parce que sur Hulu, ils annulent tout et n'importe quoi, donc voilà quoi.
Alors, je ne parle pas par rapport à ça, je suis surprise, certes, mais clairement, ce n'est pas mes séries favorites, donc ça va.
C'est n'importe quoi, et je pense qu'on va avoir du n'importe quoi au moins jusqu'en 2024, de ce côté-là.
Et c'est là que tu vois qu'ils ne veulent pas en fait céder, parce que sinon, ils annuleraient pas des séries qui fonctionnent. Ils veulent juste réduire les coûts pour tenir eux des scénaristes et des acteurs, quoi.
Ouais. Non, mais c'est n'importe quoi.
Il n'y a plus d'espoir dans ce monde, je vous dis.
Ils préfèrent mettre les gens sans travail, en fait. Enfin,
C'est pour ça, tant que The Bear n'a pas été renouvelé, moi, je commence à avoir un peu peur. En même temps, tu vois, renouvellement ne veut pas dire que la saison va arriver, mais voilà, j'ai un peu peur pour la suite pour The Bear, quoi.
Pour le coup, je pense que The Bear ne fait pas partie des séries très chères, sans vouloir... J'en doute, quoi.
Bah, je sais pas, c'est rare, quand même. Hein.
Ouais, mais je pense qu'après les prochains Emmy, bon, qui ont été reportés aussi, The Bear risque d'être peut-être un peu plus populaire. Parce
bah,
que elle a
enfin, je suis désolé, The Great était quand même très mentionné aux Emmy à chaque fois et aux Golden aussi. Donc, je
mais
vois
ça,
pas
ça coûte cher, The Great, littéralement, ouais. Genre, ouais, d'époque, les deux stars. Non, franchement, pour moi, c'est ouais. Une série chère.
Okay. C'est cher. C'est non, cher.
C'est des stars de ciné, hein, au départ.
Bah oui.
Oui. Je vous rappelle qu'à cause de ça, il n'a pas pu jouer dans Mission Impossible 7, Nicolas Hoult.
Bah oui. Dommage pour lui.
Avis express sur les séries Star Trek qui, elles, prospèrent et durent.
Ah ouais. Telle, c'est pas encore comment. Mais...
Petit bah. Bilan positif, j'imagine, de la franchise. À qui?
Oui, tout à fait. Tom. Donc, je dirais que tout ce renouveau a commencé par Star Trek Discovery. Non, bon, bref, on est là pour parler de Strange New Worlds, évidemment. Mais pour de vrai, c'est un peu grâce à Discovery qu'il y a eu tous les spin-offs, là, ouais. Genre Picard, etc. Même Prodigy, bon, annulé. Et Lower Decks, c'est un peu commandé avec... ça a commencé avec Discovery, hein, je vous le dis. Bref. Strange New Worlds, cette saison, était franchement top.
Alors, non, oui.
Quoi?
Si, vas-y, Aki.
Non, je suis pas d'accord.
Alors, moi, je voudrais dire que Strange New Worlds, ça reprend le principe, l'essence même d'un Star Trek, qui oui. Est donc l'exploration spatiale. Et donc, je trouve ça cool, on a affaire avec des autres cultures, avec des nouvelles planètes. Et bon, ok, la saison a commencé par un truc hyper personnel à l'équipage, mais c'est pas grave, ça arrive, et puis l'histoire a continué. Et puis, leurs épisodes concept, là, que ce soit le crossover avec Lower Decks, justement, et l'épisode musical, c'était différent, ça a bien marché, peux rien dire là-dessus, voilà. L'équipage est très bien. Je tiens à dire que le cast est très bien et pourtant j'aime pas Anson Mount. Voilà.
Ah non, t'aimes pas Anson?
Non,
oh
j'aime
là
pas.
Là.
Et je le trouve très bon en capitaine. Et oui, c'est ça qui est bien. C'est pas le héros, c'est juste le capitaine du bateau, pardon, du vaisseau. Mais tous non, les personnages sont aussi importants en fait. Donc c'est un vrai ensemble show.
Ah puis moi j'ai adoré cette saison 2. Enfin, c'est le... C'est de l'audace en fait. Ils essayent de montrer autre chose à la télé en reprenant l'ADN en effet de Star Trek. Parce que c'était ça Star Trek en fait. C'était des épisodes, des stand-alone qui expérimentaient en fait. Et j'ai adoré tous les épisodes. L'épisode où il y a de l'animé et où ils atterrissent dans le monde réel. Enfin, vraiment tout. Je trouve qu'il y a quand même quelques acteurs qui sont un peu moins bons que les autres. J'aime beaucoup le personnage, mais mince, Christine, l'actrice, est pas non plus.
Non, elle, je l'aime bien. Je croyais que t'allais dire l'âne, hein. Parce que l'âne s'échauffe parfois.
Oh non!
Ok. Mais genre, autres, ils sont dans une comédie, elle joue dans un drame. À un moment, ça va pas. Non, mais c'est vrai! À un moment, ça clash, quoi.
Mais non, mais c'est vrai qu'elle tire la gueule tout le temps, mais voilà. Bon. J'ai trouvé ça extrêmement cruel d'ailleurs ce qu'ils ont fait sur cette saison 2 vis-à-vis de l'âne, mais bon après voilà quoi.
Stéphane, 30 secondes pour dire tout le mal que tu...
Ouais, non, ben en fait vous prenez l'avis de mes deux collègues et vous prenez l'inverse et puis voilà, ça marche très bien. Je me suis fait chier comme un rat mort pour la plupart des épisodes et le seul qui tient la route c'est l'épisode de musical, donc voilà quoi.
Non, c'est pas vrai.
Non.
Si, c'est clairement vrai. Et j'ai écouté la BO encore de l'épisode musical aujourd'hui et en fait cet épisode est le meilleur épisode de la série.
Non mais après il est très bien.
C'est juste magnifique. Mais c'est
j'ai envie de chanter, ça y est.
Ah ben ouais, non mais c'est fou à quel point ça a été réussi et les musiques sont vraiment trop bien. Mais en fait, même le Spock qui chante I Am the X, c'est juste trop bien quoi. Donc,
mais moi quand j'ai vu cet épisode, en plus le truc de à la semaine fonctionne super bien sur la série où tu sais jamais ce que tu vas retrouver, mais ouais. Moi c'était celle que j'attendais le plus cette année. Oui. Et il y avait un truc où j'avais vraiment l'impression de revenir 15 ans en arrière quand je sais plus qui a fait un premier épisode. Voilà. Buffy fait son épisode musical et après tout le monde s'y est mis et je trouvais que c'était ça aurait pu être diffusé il y a 15 ans.
Ouais, et Grey's Anatomy aurait mieux fait de pas le faire. Hein.
Arrête, oui, j'adore, j'écoute encore les chansons du musical de Grey's.
Mais c'est parce qu'ils avaient mince.
Des vrais chanteurs, oui.
Oui. Non, pas que, mais mince, comment elle s'appelle? Elle est dans.
Ali.
Oui.
Sarah Ramirez? Non, pas Sarah Ramirez. C'est Sarah?
Si, j'avais le Sarah et j'avais pas le Ramirez. En fait, maintenant j'ai du mal avec les noms de famille.
Bon, on a eu le point Grey's Anatomy.
Non mais tout ça pour dire que ça m'a fait commencer à regarder de l'animation, ce qui est vraiment pas donné, sachant que je n'aime pas l'animation américaine. Et Lower Decks, c'est vraiment cool aussi. Voilà.
Ah ouais bon.
Ah oh. Bon, c'est sur Paramount Plus. Faut dire quand même.
Oui. Et c'est disponible déjà en intégralité.
Tout à fait.
Fred Heartstopper, saison 2 sur Netflix.
Bah saison 2 et c'était toujours trop mignon.
C'était la saison 1 était déjà un vrai petit coup de cœur et là du coup on retrouve les gamins qui sont amoureux, il y a du coming out, il y a un voyage à Paris c'est toujours aussi adorable, bienveillant, même si derrière dans le fond on sent qu'il y a des thèmes, il y a des sujets qui sont plus durs et c'est abordé avec une telle justesse et telle bienveillance et tout ça. Enfin, ça marche toujours bien, quoi.
C'est le prix de Emily in Paris ou pas ?
Quoi ?
Mais comment tu oses comparer à Emily in Paris ? Ouais, non.
Parce que les épisodes de série à Paris, c'est toujours souvent n'importe quoi.
Ah non, mais là, c'était magnifique.
C'est super.
J'adore.
C'est toujours mignon. Ouais.
C'est une vraie visite vraiment romantique, quoi.
Ah, quand ils arrivent en bus dans Paris, que tu vois les gosses excités parce qu'ils voient la Tour Eiffel et le. Et les,
enfin, ouais, ils viennent des États-Unis en bus jusqu'à Paris.
Mais à Londres, ils sont anglais. Pas de coucher.
Ils sont moches, ils sont forcément anglais.
Mais oui.
Il y a un enthousiasme de tout le casting qui fait vraiment. Ouais, ça donne envie de les suivre tout le temps, quoi. Donc,
ça me fait trop rire quand ils parlent français, du coup, parce que les acteurs avaient vraiment l'air en mode surpris. Putain, ils parlent français. Il m'a fait rire, oui, pardon.
Par contre, il parle un français très mauvais parce que même avec les sans sous-titres,
c'était correct.
T'exagères.
En revanche, je suis d'accord avec tout ce que vient de dire Fred, mais c'est un tout petit peu too much à mon goût sur certains trucs parce que j'aime bien la guimauve, mais à un moment donné, tu fais une overdose. Quoi. Ah. Voilà.
Parce que,
faut être dans le mood.
Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était de la surreprésentation parce que tu te rends compte dans la saison 2.
Il y a plus, voilà. À un moment donné, c'est un peu compliqué, quoi.
En même temps, on s'attire, hein.
Enfin, bah,
j'en doute pas,
Et c'est con parce que je trouve que dans la deuxième saison, on le voit un petit peu, mais on voit beaucoup moins les autres élèves. Mais par exemple, à Paris, ils sont toujours là, c'est juste qu'ils sont pas dans cette chambre à tous se retrouver et tout. Oui. Enfin, c'est ça qui m'a énervé.
À un moment donné, ils ferment la porte aux hétéros. Oui. Donc voilà, quoi, voilà.
Non, ils ferment la porte à l'ancien bully.
Ils ferment la porte aux homophobes. Pardon, on va changer.
J'avais
de confiance aussi, c'est pour ça.
Oui, tout à fait. Safe zone. Il disait d'ailleurs que l'acteur, celui qui joue le pote James, je crois qu'il s'appelle, j'ai oublié son prénom, je vous l'avoue, et qui est peut-être pas écrit à la base comme sur le spectre, mais l'acteur l'a joué comme s'il était sur le spectre, et du coup ça faisait encore de l'inclusivité en plus, dans le sens où de base il y avait pas de neuroatypique, et là ils ont rajouté genre un atypique, quoi.
Ah, tu veux dire l'autre gay qui
était
out, oui, d'accord.
Qui est en fait,
okay, d'accord. Okay.
Qui est genre complètement queer, mais on sait pas trop encore quoi. Voilà. Bref, voilà.
Bon, après, malgré tout, ça se regarde très bien. Faudrait que tout le monde le regarde et apprécie, quoi. Enfin, l'amour, c'est la reste de l'amour. Et puis, voilà. C'est beau.
Tu veux dire love is love is love?
Voilà, c'est ça. C'est ça, clairement.
En revanche, j'avoue que ça me saoule un peu sur ce filtre jaune, orange, là, ça me saoule. Voilà, je vous le dis.
Bon, c'est Netflix, ça.
Oui, j'aime pas.
Et donc, troisième saison qui sera la dernière.
Ah bon ?
Non ?
Non.
Je sais pas.
Je pense pas parce que dans les tomes, il y a genre 6 tomes. Alors, Ah ouais, il faut arrêter le tome.
6 tomes ? Oh putain, déjà un.
Ah non, j'ai rien dit. C'est moi qui ai mal lu.
Ah oui,
je crois que le 6 va sortir bientôt. Donc ouais.
Oui, il me semble qu'ils veulent aller jusqu'à le départ à la fac.
Non, mais je crois que c'est 2 tomes par saison de toute façon.
Ah bah alors, dans ce cas-là, ce serait logique. Du coup.
Pas du tout la même ambiance encore que Crowded Room sur Apple TV avec Tom Holland qui s'est pris une volée de bois vert.
Ah ouais.
Sans raison, mais ça c'est des débiles.
Ah ouais.
Homophobe. Ça, parce que
c'était ouf ça.
Du coup, Fred, qu'est-ce que ça donne cette série sur Apple ?
Du coup, Tom Holland qui se fait arrêter parce qu'il a fait une tentative de fusillade à New York. Ça se passe, c'est adapté d'un fait réel des années fin des années 70.
79, ouais.
Et qui a mis en lumière les cas de personnalités multiples. J'aime bien Tom Holland quand il est pas chez Marvel, et là, ça fait plaisir de le retrouver dans un truc où il a quelque chose à défendre. D'habitude, j'aime pas Amanda Seyfried, et là, ça passe.
Elle est dedans aussi.
Ah ben, ouais. Elle joue le rôle quand même.
C'est vraiment genre le deuxième personnage, quoi.
Ah non, mais j'ai pas regardé parce qu'en fait ça, c'était un truc adapté d'un fait réel et j'ai pas aimé.
Après, par contre, le sujet en soi est super intéressant, les acteurs sont bons. Après, la série, c'est écrit de manière hyper lambda, quoi. Enfin, le pseudo retournement de situation de milieu de série, on le voit venir à des kilomètres et ça n'a aucune incidence. Et voilà, c'est vraiment écrit en pilote automatique. Et pareil au niveau de la réalisation, où il n'y a absolument rien qui est mis sous tension ou en avant ou en valeur, etc. Donc, c'est un peu chiant à suivre. Donc si on s'intéresse pas au fond et si on voit pas un peu le jeu des acteurs et tout ça, je pense qu'on se fait vite chier. Mais sinon, voilà, après, moi, j'ai trouvé un petit truc à
dénoter. Ouais,
c'est, en fait, c'est que la série, je l'ai trouvée très diluée et je pensais pas dire ça, mais c'est trop long. Ouais. C'est vraiment trop long. Ouais, il y a un vrai manque de dynamisme, alors qu'il pourrait aller beaucoup plus vite, dire des choses, les mêmes choses, mais de manière beaucoup plus intéressante.
Sur et, quoi ben, sur la saison ou sur un épisode?
Sur les deux, dans la saison, elle a c'est 10 épisodes, je crois. Et bah en fait, en effet, une fois qu'on a la révélation, il continue à dérouler son récit, mais finalement, ça n'a aucune prise sur la réalité. Et à la fin, tu te retrouves à avoir un jugement sur l'acte qu'il a fait et t'en ficher complètement. Enfin, du coup, je trouve qu'il y a un effet très déceptif quand tu regardes la série. Alors qu'en fait, en effet, Tom Holland et Amanda Seyfried, ils sont très bien dedans. Je comprends pas pourquoi ils se sont pris tout ça. Enfin, on a regardé des séries bien pires avec des acteurs moins bons.
Parce que Spider-Man, il embrasse pas des mecs, ok.
Non, mais oh là là, mais ça dure deux secondes et après on voit que c'est une meuf. Enfin, les gars.
Ce pseudo scandale, c'est les gens qui sont homophobes, qui n'ont pas vu la série, qui sont très
intéressés par
le travail d'acteur. Donc,
voilà. Oui, et puis ils mettent ça en parallèle avec le futur film de Zendaya qui est attiré par deux mecs.
Oui.
Et du coup, ah, bah, il s'est vengé. Enfin, voilà, c'est des conneries.
Vraiment. Mais... Je comprends pas les gens comment ils peuvent penser ça. Je veux dire, si t'as 5 ans à la rigueur et encore.
Non, mais parce que tu vois pas les acteurs comme des travailleurs en fait. Enfin, le grand public voit pas les acteurs comme des gens qui bossent.
Mais comment c'est sociologiquement, enfin psychologiquement, je ne comprends pas en fait.
Bah,
c'est l'humain. Voilà.
Ouais, j'ai pas de réponse.
C'est pire de dire ça.
Faut rappeler que tous les interprètes de Spider-Man ont eu des rôles d'homo. Hein,
oui,
donc,
oui. Ouais.
Et merde, il y en a pas un seul qui l'est.
En plus.
Andrew Garfield, il avait pas dit qu'il était bi.
Ah bon?
Non. Je sais pas. Non.
Je l'aurais su.
Ok.
Bon, en tout cas, c'est voilà, ça se regarde pour les acteurs.
C'est oui.
Non.
Bah, c'est bien pour se rappeler ce que peut jouer Tom Holland en dehors de Marvel. C'est surtout ça.
Ouais.
Parce que c'est un très bon acteur. Avec son, alors qu'il est jeune, il a plein de choses encore à prouver. Et,
ouais, faut que tu regardes un épisode et ça suffit. Regarde pas la suite, quoi. Voilà.
Et il y a aussi Jason Isaacs et Emmy Rossum.
Oui.
Aussi.
Faut pas oublier Emmy Rossum.
Alors,
Emmy
Rossum.
Elle joue pas la mère de.
Si, elle joue la mère de Tom Holland. C'est très perturbant.
Quoi? Oui, il y a eu un petit, bad buzz aussi autour de ça.
Ouais, c'est vrai.
Bon. C'est assez bizarre ce qu'ils essayent de la maquiller pour la rendre plus vieille et ça marche pas trop.
Emmy Rossum en vieille, j'ai du mal à l'imaginer.
Mais okay, non, en fait, t'as l'impression qu'elle est le même âge que lui.
Oui.
Bah, elle a pas le même âge que lui.
Bah, c'est quelques possible. Années près, quoi.
Puis merci à qui.
À 10 ans près, je dirais.
C'est ça, c'est 10 ans près.
Emmy 36 et Tom 27, ouais.
Voilà.
Ok, super.
Secret Invasion sur Disney+, nouvelle série Marvel, la série sur Nick Fury. Est-elle un long film, Stéphane?
Oui.
Je pense ça.
Très long.
Par contre, c'est... Ouais,
c'est un long film. Pour le coup, c'est un vrai long film, ça. Hein.
C'est ni un film.
Je ne pourrais pas te dire, parce que je n'ai vu que 3 épisodes, parce que je me suis tellement fait chier que j'ai dû arrêter. Non, c'était atroce. Enfin, je suis désolé, mais enfin, qui a pu regarder un truc pareil jusqu'au bout, quoi?
Non, c'est moi.
Moi aussi, j'ai regardé.
Franchement, les gars, je... Déjà, après ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 1, je me suis dit, non, mais c'est pas possible.
Oui, alors franchement, ça m'a saoulé, ça.
Ouais. Voilà. Ils se sont débarrassés de l'un des personnages que les gens aimaient de l'univers Marvel. Donc, déjà, ça va pas. Tu reviens pour l'épisode 2, tu vois que c'est mal joué, mal écrit, mal filmé, des effets spéciaux de merde.
Enfin, c'est mal joué. Moi, je trouve que c'était plutôt correct. C'est le seul truc qui sauve la série, pour le coup.
Non, mais j'ai eu de la peine pour Olivia Colman. Je veux bien
qu'elle... Bah non, elle avait l'air de s'amuser. Franchement, elle avait l'air de s'éclater.
Ouais, mais elle est plus s'amuser et ça se voit trop, en fait. Parce que tout de suite, elle vole les scènes dans lesquelles elle...
Ouais, mais d'accord, mais aller dans un projet pareil, je sais pas qui l'a soudoyé et qui l'a menacé, quoi.
Non, mais je pense qu'il y a eu des gros problèmes de production sur ce truc.
Non, mais c'est une catastrophe.
Ça a coûté une fortune.
Mais oui, et c'est même pire. Enfin, ça coûtait plus qu'un film. Donc, à un moment donné, les gars, il faut arrêter, quoi. Enfin,
il y a beaucoup de séries qui coûtent plus qu'un film. Il faut se calmer.
Non, mais on parle de combien de millions? C'est 300? Non,
200. 200,
200 millions.
Plus de 200, mais
c'est, ouais, voilà, des gros blockbusters. Hein.
Vis-à-vis de la mythologie Marvel au ciné, ils mettent des trucs en place qui sont complètement débiles. Et non, le seul truc que je vais reconnaître à la série, c'est qu'ils ont réussi à garder la tonalité sérieuse jusqu'au bout, ce qui n'arrive d'habitude jamais.
Tu veux dire qu'il n'y a pas eu une seule blague, quoi?
Voilà.
Bah, si, Nick Fury.
Ben oui, ben voilà, moi je suis d'accord aussi, mais bon, après,
c'est une vraie blague, ce mec. Enfin, vraiment, c'est, j'ai jamais vraiment aimé le personnage, mais alors là, je trouve que c'est mais du foutage de gueule d'écrire un personnage comme ça et de déployer cette histoire autour de lui comme ça. C'est, mais c'est nul. Ça n'a aucun lien avec ce qui a été fait précédemment ou quasiment pas. Je trouve que ils ont écrit le scénario autour des minces, comment ils s'appellent là, les
Skrulls. Oh, Maxime, effort.
Les Skrulls, oui, voilà. Mais je faisais ma lessive en même temps.
Mais Fred, toi, tu connais, enfin, t'as lu les comics de Secret Invasion ou pas?
Oui. Et puis, je savais de base que ça n'allait avoir rien à voir. De toute façon. Non, mais c'était sûr parce que en comics, c'est un méga crossover. T'as tous les super-héros qui débarquent dedans et t'as vraiment de la tension sur.
C'est parce que ça va être Secret Wars.
Non, Secret Wars, c'est autre chose.
Oh putain, j'ai rien compris à ce qu'il a réussi.
Mais du coup, ça n'a strictement rien à voir, si ce n'est qu'il y a effectivement des personnages qui pourraient être des Skrulls, et on apprend qu'il y en a un depuis un moment.
Bah oui, mais ça aussi, j'ai... Enfin, bref.
Mais c'est assez amené n'importe comment, et on le voit venir, mais...
heureusement qu'il y a eu ça, mais en même temps, c'était nul. Voilà, c'est un
soufflé qui est mal amené. Et même là, sur le principe de faire une série comme ça, un peu espionnage, tension, esprit guerre froide et tout ça, ok, je veux bien, mais il faut que ce soit bien écrit, il faut que ce soit bien mis en scène, faut qu'il y ait de la tension. Là, il n'y a absolument rien de tout ça.
Et tu ne tues pas l'autre personnage important, enfin en tout cas qui était déjà connu des fans, dès la fin du premier.
Mais surtout que, toute cette série, j'aurais été parfaite dans la série, je comprends pas. Vraiment, je comprends pas.
Voilà. Moi, je l'ai lancé pour non, ça. Mais, je l'ai lancé
pour ça. Derrière, il y a tout d'autres personnages qui étaient aussi importants. Enfin, Ben Mendelsohn, c'est pareil. C'était un personnage qui avait du potentiel derrière. Et ils en font rien. Et on nous impose, du coup, une Emilia Clarke qui finit avec tous les super-pouvoirs de tous les super-héros Marvel. C'est n'importe quoi. Ils vont rien pouvoir en faire derrière.
On peut la mentionner parce que c'est la série est finie que tout le monde s'en branle. C'est Maria Hill jouée par Cobie Smulders là. C'était une catastrophe de la faire revenir pour ça quoi.
Je vais arrêter les Avengers. À quoi ça sert vraiment?
De toute façon, Bob il a dit les séries c'est vraiment trop de la merde donc on va arrêter. Donc voilà quoi.
Il a pas dit j'en ferai moins.
Il a pas dit on va arrêter.
Regardez Loki saison 2 et après c'est fini.
Non, mais c'est que tu te rends compte qu'ils n'ont plus rien à foutre de leur personnage en fait. Enfin, quand tu avant il y avait quand même un truc de on va capitaliser justement sur ces personnages qui sont aimés des fans. Ok, c'est du marketing qui influence le scénario, mais très bien. Et là, enfin, c'est même pas, il y a même pas un effet waouh, il y a juste un effet dégoût de vraiment vous allez juste nous laisser avec Nick Fury qu'on voit tous les films depuis 15 ans. Alors que on aimait bien ce personnage-là et en plus pour faire une merde pareille. Enfin, je trouve que moi j'ai pris comme un doigt d'honneur cette série. C'était vraiment, on va dépenser toute la thune qu'on veut, mais créativement,
on a plusieurs des doigts d'honneur en série quand même. Hein, là.
C'est clair.
Ouais. Et même en film. Je pense que le dernier là qui était bon, c'était les Gardiens de la Galaxie, mais ils sont pris une tôle avec Ant-Man.
Le 2, hein, les Gardiens, du coup.
Non,
3.
Non, c'est le dernier bon.
Ils sont pris une tôle avec Ant-Man. Là, ils commencent à se faire bien mal voir avec toutes les séries qu'ils font. Ils vont finir par réfléchir quand même.
Moi pour l'instant je trouve que la qualité des séries est quand même supérieure à la qualité des films, mais c'est mon avis personnel.
Mais c'est vrai que ça fait 4 films que je suis pas allée voir les ai vus sur Disney Plus là en fait, hein. Donc j'ai un peu chialé devant Galaxy 3 quand même, enfin genre
c'est parce qu'il y a des animaux bébés.
Oui, parce que ça c'est un vrai film avec un vrai auteur dessus.
Voilà.
Ça me fait rire, James Gunn vrai auteur.
Non mais enfin on pense ce qu'on veut de la qualité du film, on peut pas le nier que en fait ils sont restés dans leur univers de A à Z.
Oui.
Et après le scénario vous aimez pas chacun voit midi à sa porte. Hein. Ouais.
Tu balayes 14 heures, mais devant ta porte aussi. Tiens.
Là, ce que j'ai apprécié dans Les Gardiens de la Galaxie 3, c'est que ils vont pas nous faire une connexion avec Bidule ou avec machin. Oui. C'est leur histoire et puis basta. Et pour moi, enfin là, c'est là où je suis d'accord avec Fred, il y a un auteur qui a décidé d'une fin et qui a décidé de s'arrêter là et de dire bon ben voilà, maintenant vous allez passer.
Ce n'est pas une vraie fin parce qu'il a dit que le personnage allait trop pris, hein, mais bon,
oui,
après, bon
il reviendra.
Oui, mais lui il a fini avec son arc en tout cas, il a défendu.
Oui, ça on est d'accord. Oui, ça on est d'accord.
Là où franchement Secret Invasion, tu sais même pas où placer ça.
Mais, à la poubelle.
C'est pas des scénaristes de la série qui ont été virés des prochains Avengers là? Bah parce que tout le monde est en train de chier sur tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc en fait, ils ont viré les.
Je sais plus si c'était les scénaristes de WandaVision et tout ça qui étaient mis sur les prochains Avengers.
Ah ouais, bah ils ont été. En tout cas,
ça bouge dans tous les sens. Et puis, ouais, non, mais de toute façon, ça sera une IA qui va le faire.
Oui, en plus.
C'est clair.
Donc c'est sur Disney Plus, hein, si vous voulez. Rapidement, Silo sur Apple TV, on en a un peu parlé au début, mais là, ça s'est terminé depuis quelques temps. Est-ce que ça valait le coup ?
Oh non.
Très bien, oui. Merci Stéphane.
Mais non, mais je. Alors déjà, j'arrive pas à comprendre la hype autour du roman. Et
De toute façon, c'est faux ce que tu dis, Stéphane, parce que c'est l'une des meilleures séries qui a le plus marché cet été. Donc,
voilà. Ouais, d'accord, mais je comprends toujours pas la hype autour du roman. Et je ne comprends pas pourquoi la série a cartonné, parce que c'est tout ça pour ça, quoi. Tu vois tout venir à des kilomètres à la ronde. Enfin, c'est une catastrophe. Oh, non, c'est pas faux. T'as un minimum de jugeote, t'arrives à comprendre que le cliff de fin, quoi. Enfin, voilà.
Bon, Fred, c'est vrai ou pas?
Oui, j'avais deviné un peu le cliff de fin. Après, ouais. Moi, j'avais beaucoup aimé le début parce que l'installation est vraiment super. J'aime bien la fin parce qu'au niveau du rythme et tout ça, on se laisse prendre. Oui. Par contre, il y a un énorme ventre mou au milieu de 3-4 épisodes.
Attends, la saison, elle fait 10 épisodes. C'est la moitié de la série qui est.
C'est ce que je dis, un énorme ventre mou.
Mais c'est atroce de dire ça. Enfin, autant tu regardes les 3 premiers, tu regardes le dernier. Et tu auras tout compris. Hein.
Bon, alors, c'est pas faux. Ça, c'est pas faux pour le coup. En revanche, je trouve que l'aspect enquête, je l'ai trouvé plutôt bien dans ce monde-là, en fait. Et le cliffhanger, je suis pas d'accord que il soit si évident, parce qu'en fait, il est mentionné, enfin, genre, au cours de la série, cette hypothèse-là, elle est soulevée, en fait, et après, on sait pas si c'est vrai ou si c'est faux. Donc, en fait, pour moi, c'est pas si évident, quoi. Désolé.
Et du coup, en série gros budget de SF, est-ce qu'il faudra qu'on parle de Fondation saison 2 ou pas du tout ?
Moi, j'ai préféré la saison 2, elle était vraiment mieux.
Je suis pas rentré dedans, j'ai zappé.
Okay. Bah, moi, je préfère les romans, donc j'ai eu du mal beaucoup avec Fondation. Quoi.
Il n'y a pas de roman, entre guillemets, dans le sens où ça ne suit rien du tout. Là, c'est juste les bribes de Fondation qu'ils mettent dans une série. Donc, cette histoire, elle est complètement innovante.
Ouais, mais elle est longue.
Oui, mais chiante. Donc en même temps.
Je trouve que là, la saison 2, justement, la mythologie, elle est plus creusée. Il y a beaucoup plus de choses qui sont montrées.
Mais ok, pour Lipès et Loulou Belge, peut-être que je me forcerai. Voilà. Bon.
Elle est mieux, hein, cette deuxième saison, vraiment. C'est pas genre. Terminus, bref, blablabla. Non, là, il se passe des trucs, quoi.
Il va pas déjà retourner sur la Terre, quoi.
Non.
Bon, ok. Bon.
Drag Race France, saison 2 sur France TV, France.tv, Fred, il paraît que cette saison 2 était très bien encore.
Ben oui, c'était très bien, c'était aussi réussi que la première saison, c'est super bien que ça soit diffusé juste en seconde partie de soirée, un samedi soir sur France 2 quand même, parce que même aux US c'est du câble. C'est super bien qu'on soit la première série à l'international à avoir un final en public et tout ça, avec un super show.
C'était génial.
C'était toujours
Vous
aussi
y êtes allé ?
Intéressant.
Non.
Non, non, non.
Malheureusement.
Mais c'était toujours aussi à la fois bienveillant, piquant, drôle, touchant, avec du spectacle et tout ça. Enfin, c'était vraiment chouette à suivre, quoi.
Moi, j'ai fait un prosélytisme de malade sur Drag Race France cet été. C'est-à-dire que j'ai dû en parler à peu près 150 personnes.
C'est bizarre.
Bah, je pensais que tu regardais.
Bah non.
Ou que tu allais regarder, mais je te pense assez intelligent pour aller voir maintenant.
Oula. Ah, oula. erreur.
Non, mais je suis d'accord avec Fred, c'est génial. Et enfin, moi, en tant qu'LGBT, voir cette émission toutes les semaines et voir que ça animait le débat, que ça avait de la visibilité, que c'était pas cheap, que vraiment France 2 avait mis de l'argent dedans et que c'était ultra positif, ça m'a donné des frissons, mais vraiment toutes les semaines. Et la finale, justement pour ça, j'ai trouvé que c'était génial de pouvoir voir autant de personnes qui viennent voir cette finale en live au Grand Rex. Enfin, c'est un truc de malade. Et ouais,
et je pense que c'est très important. C'est bien, en plus.
Ouais.
À l'international, on est premier. Je crois, avait dit en mode ouais, bravo la France, en gros.
Mais parce qu'il y a vraiment du talent, en fait. Il y a vraiment du talent, mais même du talent d'écriture. Enfin, franchement, bravo aux scénaristes des épisodes derrière. Parce que l'écriture du bossu de Notre Drague, par exemple, c'était vraiment top, quoi.
J'ai vu un thread passer sur Twitter que j'avais trouvé un peu drôle. Et, en gros, c'était un sondage qui demandait est-ce que les lesbiennes aimaient Drag Race. Et il y en avait beaucoup qui disaient bah, pas concernées, en fait. D'autres qui disaient bah, alors, je regarde pas, mais je suis contente que ça marche aussi bien, que ça, qu'il y ait autant de hype autour. J'appartiens clairement dans à cette catégorie parce que je m'en fous tellement de cette série, enfin de cette émission. Genre, tant mieux si ça marche, hein, parce que super l'inclusivité. Mais alors, je comprends pas en fait, je comprends pas l'intérêt. Genre, okay, ça reste une émission de télé-réalité pour moi, voilà.
Oui, oui, mais c'est assumé comme une émission de télé-réalité. Mais c'est juste que ça brasse des sujets qui sont ultra réels et il n'y a pas ce côté très cynique ou manipulateur dans l'émission. C'est une émission de télé-réalité, mais qui est vraiment basée sur le talent de ces personnes, avec bah, par exemple un talent de couture, un talent de danse, de comédie. C'est de montrer que des personnes bossent toutes les semaines pour monter un mini-spectacle, en fait, que le métier d'acteur, de comédien, il y en a beaucoup qui se considèrent comme des comédiens, c'est du travail. Et oui, que le métier de costumière, c'est du travail aussi. Et c'est basé uniquement sur ça. Donc, il y a un côté très positif et qui véhicule des valeurs, je trouve, qui sont vraiment différentes de ce que la télé-réalité fait aujourd'hui. Quand tu vois qu'en face, ce qui est considéré comme émission de télé-réalité aussi, c'est les Marseillais.
Bah, oui, c'est sûr.
Drag Race France, je me dis, putain, si ça peut montrer des valeurs comme ça et bah, un peu plus d'inclusivité aussi, c'est top. Et bah, je connais du coup maintenant plein d'hétéros qui regardent la série et qui, bah, je sais pas, enfin, j'espère qu'ils vont retirer quelque chose derrière, quoi.
Oui, ils regardent pas pour se moquer.
Non, du tout.
Non, du premier degré.
Ouais, ouais. Okay. C'est vraiment du premier degré. Tu peux te moquer de certaines candidates parce qu'il y a toujours cette gimmick un peu bah, télé-réalité où tu vas avoir ta préférée où elles vont se faire un peu des coups de pute, mais en fait, quand tu vois les coups de pute qui se font, ça s'en est pas du tout. Il y a quand même un côté jeu. Alors voilà, c'est une émission de télé-réalité. Ça, on peut pas l'enlever, c'est pas un documentaire.
Et Daphné Burki est toujours très bien dedans.
Ah, mais oui, elle est géniale.
Ouais.
Je dois regarder, ça sera pour elle, en fait.
Ah, mais vraiment, elle est top.
Je l'aimais pas avant, et là, elle est super.
Comment ça, tu l'aimais pas avant?
Eh ouais, je l'aimais pas avant.
Qui aimait Daphné Burki, franchement?
Moi.
Qui connaissait Daphné Burki déjà?
Moi-même.
Futurama saison 8/saison 11, on sait plus. Ouais. Sur Disney+, Stéphane. Est-ce que ça valait le coup de ressusciter Futurama?
Là, tout de suite, tu me dis à mi-saison, je te dirais non. C'est très compliqué, en fait, c'est très aléatoire. Il y a des épisodes qui sont très mauvais, il y a des vannes qui sont très mauvaises dans des épisodes qui sont très bons. Enfin, franchement, ils sont fatigués, les scénaristes, autant les laisser au repos, quoi.
C'est vrai que je fais la. Enfin, moi, je regarde en parallèle les débuts de la série, enfin, j'étais à saison 3. Et il y a moins de choses à jeter quand même au tout début, alors que là c'est très laborieux, quoi. Il y a des choses, ça, c'est très forcé, quoi.
Ah ouais, ouais. J'aime bien, tu vois l'épisode où ils se moquent de Dune et ils font des références à Dune, c'était sympa.
Celui-là était sympa, ouais.
Dans la litière de Nibble et tout, ouais, voilà. Bon, il y a des trucs qui. C'est triste en fait, tu vois qu'ils sont fatigués.
C'est sûrement pas les mêmes.
Non, mais c'est ça qui est pire, en fait. C'est se dire qu'après 10 ans, qu'ils ont pas réussi à trouver des gens qui ramènent des trucs frais et qui arrivent à trouver des blagues drôles, autant laisser mourir la série, quoi.
Mais c'est un peu ce qui est arrivé aux Simpsons au bout d'un moment. Hein. Enfin, oui, maintenant,
les Simpsons se sont jamais arrêtés. Ils ont eu 3 ou 4 fins déjà, à un moment donné, merde, quoi.
Après, c'est les séries qui avaient un niveau quand même assez exceptionnel à un moment donné, quoi. Les Simpsons, c'était souvent très drôle tout le temps. Futurama aussi, et au bout d'un moment, oui, forcément.
J'étais généreux avec Futurama quand même, je trouve. J'ai jamais trouvé Futurama aussi exceptionnel que tout le monde peut le dire.
Il y a des épisodes, c'est
magnifique. Non, d'accord, comme partout dans toutes les séries.
Oui,
Non,
mais après, le niveau était quand même haut. Pas très longtemps, mais était haut.
Ok, bon, je
il y a quand même beaucoup d'annulations dans Futurama, enfin, il y a eu beaucoup de...
Mais c'est dommage, hein, parce que franchement, c'était l'occasion rêvée de la ramener à la vie et d'avoir des choses à dire sur les années 2020, quoi.
Bah, le tout premier sur les reboots, c'était...
Voilà, il était très bien. C'est là où tout le monde s'est dit, ah putain, en fait, Futurama va avoir encore des choses à dire, mais en fait, non.
Autre chose pas très bien, c'est My Adventures with Superman, série inédite sur nos contrées, Stéphane. C'est terminé, 10 épisodes, heureusement.
Mais c'est écrit avec les pieds, putain.
Oh, le dernier.
Ouais, mais c'est du Superman, mais qui a été massacré, quoi.
Alors, c'est mixé avec la Japanime, c'est-à-dire dans les tons, dans le rythme, dans la forme.
Tu veux dire que Lois, elle a des petites pommettes roses qui apparaissent
quand elle est Clark. Clark tout le temps, toutes les deux minutes.
c'est ce qui m'a le moins choqué, en fait, de la série. En fait, c'est très mal. Enfin, c'était mauvais, quoi. Enfin, je comprends pas ce qui s'est passé, comment ils ont pu valider un truc pareil. Et...
Tous les gimmicks que j'aime pas à la Japanime, ils le mettent dedans, quoi. Genre les gros robots, dès qu'il y a un combat, c'est un gros robot, c'est des robots tout le temps, c'est chiant.
Ouais, mais en fait, ça va. Mais en fait, c'est la mythologie qu'ils essayent de développer qui ne me plaît pas et qui, j'imagine.
Quand ça devient sérieux, c'est mieux. Mais voilà le sérieux, quoi. Bon, la révélation sur le général, tu le savais depuis le début. Quoi.
Bah oui, bon, en même temps, si tu connais la mythologie,
je vois. Bah, c'est ça, quand tu connais, voilà, il n'y a aucune surprise.
Voilà. Mais c'est... Non, mais c'est très mauvais. C'est... Je ne comprends pas qu'ils aient validé un truc pareil et surtout qu'ils l'aient renouvelé avant le début de la saison.
C'est très enfantin.
Moi, je trouve ça violent pour pas grand-chose, mais bon, après.
Aussi. Bah, voilà. C'est bon. Japanime. Hein, c'est...
Oui. Peut-être, mais c'est, ça me fait mal au cœur de moi, fan de Superman, ça me fait mal au cœur. Voilà.
La défense Lincoln sur Netflix, ça fait quand même son petit effet sur Twitter. Il y a des gens qui aiment beaucoup, parce que ça fait un peu rétro comme série.
Oui.
Oui.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le coup?
Moi, je trouve que ça marche bien. Hein. Franchement, je me prends vachement au jeu. Je m'attendais pas à aimer, surtout, genre, c'est typiquement le genre de héros pseudo-charmeur, genre célibataire, mais pas vraiment. Enfin, ça, qui me saoule, quoi, disons-le. Sauf qu'il est très bon, l'acteur, je le connaissais pas d'avant.
Non plus. Ouais.
Je l'ai découvert là-dedans. Il l'incarne parfaitement, le mec.
Qui a l'air,
Bah après, il y a aussi Becky Newton, donc ça, c'est genre cool de la voir. Les affaires du... Excusez-moi, je vais tousser. Pardon. Ouf. Les affaires juridiques marchent bien aussi, mine de rien. Enfin, genre, on se prend au jeu, on théorise un petit peu, mais surtout, on est vachement derrière le personnage principal. Et c'est ça qui est le plus surprenant, je pense.
Mais qu'est-ce que ça fout sur Netflix?
Ben, c'est une bonne question.
C'est clairement... une série de network, quoi, clairement.
Ouais, c'est David Ekeley qui est derrière, donc c'est pas...
Alors, il était à la création, mais parce que le showrunner, c'est quand même un ancien de The Good Wife, c'est Ted Unfrey, mais...
Ah, il s'est déjà barré, David
Ekeley. Oui, il s'est barré dès le départ, en fait, il avait co-créé, puis ça a été racheté par Netflix, parce qu'à la base, c'était sur un network, ça a été racheté par Netflix, et c'est Ted Unfrey qui est arrivé. Bon, enfin, bref, on s'en fout. Non, mais c'est ça, rien à foutre là-dessus. C'est très bien, en plus, Netflix la divise en deux et tout ça, machin, ça fait plus ou moins Netflix.
C'est clairement des saisons, voilà. Enfin, genre des...
Avec une mi-saison et tout. Mais je trouve la saison 2 moins réussie que la première. Je suis pas OK forcément avec tout ce qu'ils présentent dans la saison 2, avec le départ de Neve Campbell et tout, machin. Il y a des trucs qui me... Il y a des trucs qui me chagrinent un petit peu, mais en tout cas, ça fonctionne, donc... Ça serait dommage de bouder son plaisir, quoi.
C'est clair, mais c'est même étonnant. En fait, c'est tellement rétro, enfin, c'est classique comme format, qu'on pourrait se dire, non. Et en fait, si. Et bon, peut-être la saison 2, c'est parce qu'elle a Anna Parida, donc peut-être que j'ai été un petit peu biaisée.
Ouais, parce que le personnage est pas top. Mais par contre, ce qui me chagrine, c'est que donc c'est censé être un univers partagé avec Bosch. Parce que Michael Connelly a créé deux personnages, donc Mickey Haller pour la Defense Lincoln et Bosch pour la série des Bosch, quoi. Et en fait, ils ne se croiseront jamais parce que Bosch, c'est sur Prime Video, et donc voilà. Donc, et sachant que la première saison était censée être une intrigue partagée entre Haller et Bosch, et donc en fait, qui sont demi-frères. Bon, enfin bon, on s'en fout, voilà. Et donc on ne le verra jamais. Et donc en fait, ils ont coupé la saison 1, ils ont viré Bosch et ils ont gardé juste Mickey Haller. Bon, enfin, voilà.
D'accord.
Donc c'est très triste. Mais c'est très triste parce que tu te dis, ben en fait, vivement qu'ils se croisent, quoi. Et en fait, ils se croiseront jamais.
Et comme personne ne le sait à part Stéphane, clairement, je ne m'étais jamais dit vivant qu'ils se croisent.
Non, mais par contre, les fans de Michael Connelly qui connaissent les romans et les
livres,
je pense qu'ils vont être extrêmement frustrés de ne pas pouvoir voir les deux demi-frères se rencontrer, quoi.
Il y a beaucoup de fans de Michael Connelly.
Oh, mais oui, mais si t'as plus de 30 ans, oui, clairement.
Bah, j'ai plus de 30 ans.
C'est quand même un grand genre romancier, hein, pour
lui. Oui, et bien je l'ai rencontré à Paris, un peu, pour former des images, et franchement,
il va bien.
C'était il y a 10 ans, mais enfin presque. Mais non, c'est pas un mec, il cartonne en France, il vend encore des livres en
pagaille. Bah oui, tous les policiers, de toute façon.
Ouais, et je pense que la plupart du public de la défense Lawyer, enfin la Lincoln. Défense Lawyer, n'importe quoi, la défense Lincoln, ben, c'est eux, quoi. C'est, je pense pas que ce soit du public. Ah ouais,
je pense qu'il y a des jeunes, hein. Il y a beaucoup plus de jeunes que ce que tu penses.
Mais ça serait, ça, moi, ça,
ça reprend l'histoire du film ou c'est la suite du film ou c'est une nouvelle adaptation du roman?
Bah, c'est une nouvelle adaptation d'un autre roman qui n'est pas les premiers qui ont été adaptés avec Matthew McConaughey.
Donc, tout à fait.
Et enfin, saison 2 de And Just Like That que personne n'a regardé.
Enfin, Maxime,
tout le monde s'en foutait, de toute façon. Maxime. Mais il paraît que c'était mieux.
Ben oui, justement, c'est pour ça que je voulais en parler. C'était juste pour dire que la saison 1, je l'avais trouvée assez détestable et la 2 est carrément bien meilleure parce qu'ils se ressemblent sur les personnages. Ouais. Oui, et ils se concentrent beaucoup plus sur les personnages et ils essayent moins de dire des choses sur la sexualité à 50 ans, sur sur la société d'aujourd'hui, etc. Ils ont un peu calmé la voileur là-dessus.
Et parce du qu'ils ne savaient pas quoi en dire ou c'est parce qu'ils ont juste pas compris le monde d'aujourd'hui?
Bah, alors, dans la saison 1, c'est clairement qu'ils n'avaient pas compris le monde d'aujourd'hui. Et dans la saison 2, je pense que c'est qu'ils ne savent pas quoi en dire. Et ils préfèrent suivre Charlotte. Okay. Merde. Comment est-ce que Carrie? C'est le personnage principal.
Oh, Carrie, oh là là.
Et Miranda. Et du coup, ça fonctionne beaucoup mieux et il parle beaucoup plus d'amitié. Il y a le personnage de... Alors, elle, je retiens jamais son nom aussi. Et merde.
La nouvelle.
Oui, la nouvelle.
J'ai oublié son nom, mais la pote de Charlotte, quoi.
Ok, putain, mais ça vous donne vraiment envie de regarder la série, quand même.
Mais oui, mais j'ai du mal avec les noms, vous le savez. Non, mince, elle jouait dans Homeland.
Che.
Sima.
Mais non,
non, c'est pas... Sima, voilà, qui devient la grande pote de Carrie, en fait, qui remplace Samantha, clairement. Elle fonctionne très bien, elle fonctionne beaucoup mieux dans la saison 2. Il y a vraiment une question sur leur amitié à toutes les deux, dans le dernier épisode, qui est super intéressante.
Attends, c'est l'agent immobilière ou...
Oui.
C'est elle, ok, d'accord. Oui, elle est bien.
C'est marrant. Ouais. Et du coup, je trouve que son personnage fonctionne aussi bien que s'il y avait eu Samantha, mais sur un autre registre. Et du coup, ça devient intéressant. Le seul bémol, c'est que le personnage de Che devient insupportable, mais vraiment insupportable.
Je crois que c'était déjà le cas en saison 1.
Ben... Non, je
elle était
pas.
Horrible en saison 1, moi je trouve, désolée, mais elle est absolument détestable.
Ah ben, pourquoi ça, Mérez, elle dit continue à garder le rôle si ça fait bâcher
dans une interview, elle avait quand même dit c'est un personnage, c'est un personnage, c'est un travail et je n'ai pas, enfin je cautionne pas forcément le personnage. Elle avait dit un truc comme ça.
Ouais. Pourquoi pas.
Mais ouais, la saison 2, c'est encore pire. Hein. Vraiment, t'as envie de la claquer à chaque fois qu'elle apparaît. Elle apparaît. Donc non, voilà, si y en a qui ont été jusqu'au bout de la saison 1, je trouve que la saison 2 elle est quand même de meilleure qualité.
Et ce fameux caméo?
Ah oui.
Alors c'est un clin d'œil, hein. Vraiment, en fait c'est vraiment, j'ai tourné la tête, je l'ai pas vu.
Oui, les actrices avaient dit attention, c'est vraiment un caméo.
Ah oui, non, ouais, c'est j'ai été obligé de re-regarder la fin de l'épisode pour me dire ah oui, en effet, elle était là, très bien.
Et okay. C'est sur quelle plateforme?
C'est sur rien, justement. Salto. C'était sur Salto, ah, oui. Ouais. Et c'est sur rien en ce moment. On ne sait pas ce qui va se passer.
Très bien. Bon, ben voilà, c'était quand même consistant pour un pote de rentrée. Alors, je ne sais pas si ça sera aussi consistant dans les émissions à venir. La grève est toujours là.
Ouais.
Mais on trouvera des choses.
Bah, on fera des séries européennes, en vrai, parce qu'il n'y a genre que ça maintenant. Hein. Genre en série française, il y en a je ne sais pas combien qui commencent. En série espagnole, il y en a genre 30 000. Bref, voilà.
Ben, on te laisse regarder toutes les séries espagnoles, si tu veux.
Non,
ou sinon, on parlera de Rewatch. Hein.
C'est vrai.
Oui. Oui.
Exact. Très bien, ben merci. Merci. Je cherche vos noms, mais oui, Maxime, Fred, Aki et Stéphane. Ça ne change pas. Merci, donc la saison 10 est lancée. On se retrouve aussi en direct de podcast fin octobre, en live pour un épisode spécial, évidemment.
À Castres, parce que j'ai l'impression que podcast, on entend podcast.
Oui,
à chaque fois et
qui met des R partout, mais non.
Ouais, c'est ça.
Et donc, on se retrouvera là-bas. Donc, venez nombreux si vous pouvez.
Et c'est le samedi 28 octobre pour ceux qui n'ont
samedi 28 octobre à 17h30.
Voilà,
c'est ça. Faut que je prenne mes billets d'ailleurs. Je croyais que je les avais pris. Est-ce que dans vos souvenirs, j'avais pris mes billets?
Non, j'avais pris l'hôtel avant que tout le monde y aille.
C'est vrai.
Allez, voilà. On vous laisse organiser tout ça. Merci. Laissez-nous des petites notes, des petits commentaires pour notre tour. Ça nous fait plaisir. À bientôt. Salut.
Bye.
À bientôt. Bye.